Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver en ce nouveau dimanche pour un nouvel épisode de Hoop Culture. Je suis rejoint à ma grande joie, comme chaque semaine, par Pierre-Armand Samama. Comment ça va, Pierre-Armand?
Eh bien, écoute Théo, je suis ravi de te retrouver. Je te high five sur le côté, voilà, virtuellement, et c'est vraiment un bonheur, comme chaque dimanche, de vous retrouver sur la chaîne YouTube Basket Session et sur toutes les plateformes de podcast habituelles.
Alors voilà, cette semaine, on va parler d'une équipe et d'une ville en particulier. À l'heure où on a enregistré, on vous dit tout, on a enregistré ça jeudi après-midi, c'était la seule équipe qui était déjà qualifiée pour les finales NBA. Je parle bien entendu des Boston Celtics, mythique histoire, mythique ville de basket à la culture très riche. Et on s'est dit que c'était l'occasion de faire un focus sur cette équipe. Alors pas forcément sur l'équipe actuelle qui va jouer essayer de décrocher une nouvelle bannière dans quelques semaines, mais plutôt l'historique de cette équipe, les joueurs, les rosters qui nous ont le plus marqué. Encore une fois, l'histoire de la ville, je vous le présentais, mais j'ai oublié de le dire. Voilà, je vous montrais le MOOC Rivers numéro 12 spécial Boston qui est sorti il y a pile un an. Voilà, qu'on avait consacré à cette, plus qu'à un club, ouais, vraiment à la ville. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses aussi sur l'identité même de cette cité un peu à part, comme on va pouvoir en discuter aujourd'hui avec Pierre Armand. Voilà, c'est. J'ai l'impression que Boston, finalement, au-delà de la place historique qu'occupe la franchise, voilà, c'est l'une des deux franchises les plus titrées de l'histoire de la NBA, c'est aussi une équipe qui laisse rarement les gens indifférents. Alors, je ne sais pas de quel côté tu tombes, Pierre Armand. J'ai l'impression qu'il y a souvent soit les pro-Boston, soit ceux qui détestent l'équipe un petit peu. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est les Dukes de la NBA, mais parfois, il y a un petit peu ce côté-là. Il y a un petit parallèle peut-être à trouver. Je ne sais pas, toi, de quel côté tu tombes de cette fameuse barrière.
Alors tu vois, c'est marrant ce que tu viens de dire, parce que tu dis c'est une franchise qui laisse pas indifférent, et moi je vais me mettre du coup, je vais prendre le contre-pied en bon casse-bonbon que je peux être, en disant que bah moi depuis quelques années c'est une franchise qui me laisse indifférent, que je peux pas l'expliquer. On en avait parlé récemment encore dans une late session avec Shai, et c'est vrai que on s'en rend compte, hein, les gens dans les commentaires sont assez virulents en disant comment, en effet, il y a beaucoup de pros et contre Boston. Je pense que ça fait partie un petit peu, nous, Français, les grandes dynasties, les grandes équipes qui ont gagné plein de choses, etc. On n'est jamais grand fan, on aime bien les outsiders et les underdogs. Mais c'est vrai que c'est une franchise mythique qui a eu pour lequel les gens ont eu un vrai regain d'intérêt à la fin des années 2010, début des années 2010, et qui là depuis un certain temps, moi-même je me surprends à voir les stats et le palmarès de Boston sur ces 5 ou 6 dernières années, le nombre de finales de conférence, en me disant mais c'est vrai qu'ils sont là depuis tout ce temps, c'est vrai qu'ils sont c'est à la limite se dit chaque année, c'est impossible qu'ils n'aillent pas en finale NBA, ce serait une surprise. L'année dernière, ils ont failli compléter le comeback le plus incroyable de l'histoire. Tu en parlais très récemment avec Shai dans un CQFR. Mais je ne sais pas, c'est une franchise qui a ses périodes, moi qui m'a sur laquelle je me suis intéressé à cause d'une belle histoire, celle d'Asia Thomas il y a quelques années, parce qu'on aime bien les contes de fées. Et là, curieusement, avec une équipe ultra bien construite, une intelligence dans la construction de l'équipe, le fait d'avoir rajouté Jrue Holiday, c'était le seul truc qui leur manquait. Ils ont réussi avec Milwaukee qui dit de toute façon, nous on va tout faire, on va prendre Lillard pour taper Boston et les autres par je sais quel biais, bam, ils ramènent le truc, l'ingrédient qui fait que le gâteau est encore meilleur, l'éclosion de joueurs, j'ai un joueur que j'aime beaucoup, Derrick White, etc. Et pourtant comme je te le dis, je mange un Activia brassé sans sucre à chaque fois. C'est-à-dire que je l'avoue, j'ai pas. C'est les seules séries que j'ai pu regarder sur le format League Pass en condensé, c'est-à-dire les résumés de 10 minutes. Ce sont les matchs de Boston à tort, parce que la série avec Indiana, finalement, à chaque fois, bah, je les ai regardés un peu plus intensément. Mais voilà, ça me laisse dans une indifférence toute relative, attention, puisque en tant que fan de basket, on ne peut qu'apprécier la résilience, enfin, c'est même pas résilience, mais le fait que cette équipe fonctionne tout le temps de belle manière. Ils avaient pris un sacré coup sur la calebasse quand Kyrie Irving leur a fait le coup à l'envers. Voilà, malgré Porzingis, c'est une équipe qui est là, qui tient la route, qui est en bonne santé physique, qui fait tourner ses joueurs, qui a une différence de points, une des plus incroyables de l'histoire de la NBA pratiquement, qui gagne tous ses matchs sur 82 par une moyenne pratiquement sur les 60 ou 65 victoires qu'ils ont dû avoir, entre 60 et 65, de plus de 13 points pratiquement. Moi, je peux avoir que du respect pour ça, mais justement, c'est quelque chose. Alors, je vais pas faire de parallèle avec le foot parce que il y a trop de gens qui vont tomber dessus, mais ce côté, je sais pas, peut-être dominateur sans éclat ou sans étincelle, ou sans peut-être manque un joueur comme Kyrie, comme Luka, un type qui mais malgré tout, regarde, un type comme Tatum est encore deuxième ou troisième des maillots les plus vendus de la ligue après LeBron et Steph. Alors dis-moi toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi je suis pas un hater du tout de Boston. J'aurais toujours préféré Los Angeles parce que c'est comme ça. Moi, dans les années 80, c'était plus Los Angeles Lakers que je préférais. Mais j'ai pas de situation de haine pour les Celtics. Je peux en avoir pour d'autres franchises de la ville de Boston. On va peut-être en parler tout à l'heure. C'est une vraie ville de sport. Toi, quelle est ta position vis-à-vis de cette franchise?
Ouais, en fait, elle est multiple. Je vais commencer par repartir de l'équipe actuelle dont tu parlais,
ouais,
Pierre, et puis ça va permettre de repartir en arrière. J'ai l'impression, finalement, la grande injustice, peut-être, que cette équipe actuelle peut vivre, c'est effectivement finalement, ils ont perdu que deux matchs de play-off, et tout le monde est là à regarder les petits détails. Ouais, mais c'était pas très dominateur. Oui, mais ils ont été accrochés par une équipe d'Indiana. Oui, mais ils ont perdu un match contre Miami, alors qu'il y avait cinq mecs qui bossaient à la supérette d'en face pour faire le 5 sur le terrain. Donc, il y a toujours cette grosse critique, et je pense que une des raisons qui explique tout ça, c'est à la fois, effectivement, le talent incroyable de cette équipe, monstrueux, magnifique. Magnifique équipe de basket, et il y a aussi tout le poids de l'histoire. Et finalement, tu en parlais les trois choses essentielles à retenir de la semaine. Je crois que c'était la semaine dernière, Pierre, tu parlais de Vince Carter qui avait eu son maillot retiré au plafond des Brooklyn Nets pour son passage à New Jersey. Je veux dire, aux Celtics, c'est même pas la peine de rêver à ce que ton maillot soit retiré si t'as pas gagné un titre en vert, en fait. C'est-à-dire que les standards sont tellement élevés, la barre est tellement haute dans cette franchise, comme ça peut être le cas aussi à Los Angeles. Je parle des Lakers, bien entendu, que du coup il y a ce poids de l'histoire écrasant, et on va pouvoir en parler parce qu'effectivement c'est une histoire qui est riche comme peu d'autres franchises de toute la ligue, et qui a cette chose fantastique et assez incroyable, qui a eu plusieurs époques. Qui a eu plusieurs passages de très grandes époques. C'est-à-dire que la plupart des franchises, si tu dis c'est quoi la plus belle équipe de la franchise, en deux temps, trois mouvements, tu dis c'est simple, c'est cette année-là parce qu'ils ont gagné le titre, et la question elle va pas plus loin. Alors que pour les Celtics, tu peux même au sein parfois d'une même décennie, enfin notamment si on remonte aux années 60, tu peux vraiment te poser la question de savoir quelle était cette meilleure équipe, et puis après tu peux, de décennie en décennie, tu peux trouver des équipes avec lesquelles les comparer. À titre d'exemple, alors c'est pour plus la blague, mais l'autre fois, on était invité chez des amis, et puis il y avait une console. Moi, il n'y a pas de console chez moi, donc il n'y a pas de jeux vidéo, etc. Et mon fils était tout content de pouvoir jouer à 2K. Puis je passe un moment, et il jouait avec son pote, et je lui dis, ouais, vous avez pris quoi comme équipe? Donc son pote, il avait pris les Denver Nuggets de 2024. Mon fils, il avait pris les Boston Celtics de 1986. J'attendais pas du tout. J'ai dit, mais t'as ouf, toi, t'as 9 ans, tu prends les Celtics de 86. Pour dire que voilà, même en dehors de la dynastie incroyable des années Bill Russell, des années 60, tu peux trouver dans les années 70 ou encore dans les années 80 avec Larry Bird, des équipes qui ont été très grandes de la part des Celtics. Et la question se pose même peut-être encore cette année, si les Celtics devaient aller jusqu'au bout et être champions, on se poserait certainement, au vu de leur saison régulière, on se poserait la question de savoir où ils se classent dans parmi toutes ces grandes équipes mythiques.
Mais c'est tout le paradoxe, parce que cette équipe, elle fait une saison incroyable, d'une domination absolue comme peu d'équipes ont pu le faire ces dernières années, et même depuis plus de 10 ans. Et pourtant, on va leur sortir qu'ils ont eu, à tort ou à raison, c'est vrai, c'est pas faux non plus, un des parcours les plus simples pour arriver en finale avec une cascade de blessures, etc. Mais en tout cas, respect à ton fils, parce que je ne sais pas s'il a étudié le truc, mais c'est quand même marrant que dans l'histoire, il y ait deux gars qui soient arrivés à faire 60% de réussite et 80% au lancer franc, c'est Nikola Jokic et Kevin McHale de l'autre côté, qui étaient dans donc, cette fameuse équipe de 86. Donc respect au fiston, encore un enfant bien élevé.
Tiens, attends, j'en profite, je te montre un petit... Alors, c'est pas ma relique de la semaine, mais je te montre un de ces coussins. Alors, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Attendez, j'ai passé en grand pour qu'on voit. Donc, c'est... Et en fait, alors pour tout vous dire, ça, c'est un t-shirt. C'est un de mes anciens t-shirts qui a été transformé en coussin par les douces mains de sa grand-mère. Et donc, vous voyez, c'est un truc que j'avais eu dans un stage de basket TBA, stage de basket qui existe toujours avec Larry Bird. Donc, oui, effectivement, mon fils, s'il connaît pas trop mal en Larry Birdologie, il touche, mais je m'attendais quand même pas à ce que son premier réflexe, quand il a l'occasion de jouer, ce qu'il a jamais l'occasion de faire sur le PlayStation, ce soit de prendre les Celtics de 86. Et j'étais bluffé.
Incroyable, Larry Bird, on dirait José Bové sur la photo, c'est de pire en pire.
Exactement.
Ou Nadine Morano avec une moustache. Quoi.
En plus sexy.
En plus sexy, peut-être. Non, mais là où tu as raison, c'est l'exigence permanente en fait, qu'on a avec Boston. À la fois nous en tant que fans, mais bon, ça tu disais, il n'y a pas beaucoup de franchises, il n'y en a qu'une, hein, à part les Lakers, ils se tirent la bourre tous les deux. Mais la ville, une ville qui est obsédée par l'histoire, hein, par sa propre histoire, parce que c'est une ville qui est fondée 150 ans pratiquement avant la déclaration d'indépendance, donc en 1630, je crois. Et surtout, c'est une ville qui est obsédée par la place qu'ils vont pouvoir laisser. Tu ne trouveras personne à Boston pour te dire que le titre de 2020, contrairement à ce qu'on peut dire nous au sein de la rédaction, c'est un titre comme un autre. Bon, non, ils vont toujours te dire que c'est pas vrai, que cette bannière qui fait que le tiebreaker a un peu changé est mérité.
Ils te diront aussi que les Lakers ne devraient pas compter les titres de gagner avec Minneapolis. C'est un des grands arguments aussi des fans de Boston.
Mais c'est pour ça que les Lakers ont trollé l'histoire de la banderole pour le in-season tournament de cette année. Hein. Ça faut pas chercher. C'est juste pour emmerder Boston. Toi, quand je te dis une image, une chose, la première image qui te sort quand on te parle de Boston ou des Boston Celtics, quelle est la première chose qui flash, qui te flash?
Je pense que c'est Larry Bird malgré tout. Hein. Je pense que c'est. Alors, c'est pas forcément une image de match particulier. En y réfléchissant en plus, je pourrais te trouver des exemples. Mais je pense que c'est Larry Bird parce qu'en fait, au moment moi, où je me suis mis dans le basket, c'était la fin, vraiment, les dernières années de Larry Bird qui était plus que sur une jambe, qui était d'ailleurs bien plus jeune que ce que. J'avais l'impression qu'il avait 70 piges, le machin, à l'époque. En fait, il avait 34 ans. C'est absurde. Mais ouais, c'est Larry Bird parce qu'en fait, il y avait cette mystique. Et tu vois le t-shirt que je te montrais tout à l'heure, c'est en t-shirt, je connaissais pas grand chose à l'NBA, mais pour moi ça faisait partie des premiers joueurs qui dans mon imaginaire à moi faisaient partie des monuments. En fait, il y avait Magic, Bird et quelques autres, tu vois, Karim bien sûr, et d'autres, voilà, ça fait partie des monuments. Et c'est un joueur, on en a déjà parlé je crois Pierre, mais je pense qu'on oublie aujourd'hui avec le temps la place et l'importance qu'il a eu quand il était dans son prime, quand il gagne ses 3 titres de MVP de suite. Ça on s'en souvient plus, mais il était considéré comme potentiellement le GOAT, c'était celui dont on parlait comme étant potentiellement le plus grand de tous. Après voilà, les problèmes de santé, ses problèmes au dos lui ont pas permis de poursuivre son prime longtemps, mais voilà, c'est un joueur, tu sais, quand je regarde des highlights, souvent on se pose la question de savoir est-ce que les mecs des années 80 auraient pu jouer en 2020, ils étaient moins athlétiques. Franchement, tu regardes des highlights de Larry Bird, mais sans aucun problème, le mec aurait pu jouer aujourd'hui et ça aurait été joueur dominant. C'est simplement, il aurait pas grandi en portant des converses aux pieds plates comme je sais pas quoi, en faisant du terrassement dans son jardin l'été comme seule manière de faire de la muscu. Il sera adapté et ça aurait été un joueur immense aujourd'hui encore. J'ai aucun doute là-dessus.
Je pense que c'est un des joueurs les plus clutch de l'histoire. On n'en parle, jamais, mais on parlait de Money Time récemment, là, avec les derniers playoffs et les difficultés à gérer les Money Time pour que ce soit Indiana. Bon, alors c'est un drôle de clin d'œil du destin, mais que ce soit Indiana ou Minnesota. Quand on regarde les matchs et quand on entend parler les joueurs à cette époque-là, quand il y avait pas loin d'égalité et que Bird était encore sur le terrain, il restait une minute, les gars, ils avaient envie de dire bon, bah, c'est vrai. Les gars, fin de soirée. C'est mort. Donc, non, mais c'est vrai que c'est un des joueurs les plus clutch de l'histoire. On n'en parle pas beaucoup. Et tu vois, Larry Bird, moi, c'est un type qui est à la base de ma passion pour l'histoire de la NBA. Juste t'explique pourquoi en deux secondes. Quand, comme nous tous, on a commencé à s'intéresser à la NBA parce qu'elle arrivait sur Canal+, sur les finales 91-92 et suit par la suite par la Dream Team. Au-delà de la Dream Team, moi je me rappelle, j'étais aux États-Unis quand il y avait les Jeux Olympiques, donc je voyais la Dream Team en direct. Et malgré tout, là-bas, ils avaient l'habitude de ça, tu vois. Ils les connaissaient par cœur, ces joueurs. Donc il y avait un engouement certain, mais bon, c'était moins la folie qu'on pouvait avoir chez nous, puisque nous, c'est comme eux, leurs rappeurs, ils les voient tout le temps quand ils viennent ici. Bon, c'est l'émeute. Mais. Moi j'avais regardé, donc je me levais la nuit pour le tournoi pré-olympique, ce qu'il n'avait même pas regardé, hein. Georges Eddy me disait quand on avait fait l'interview là, pour le MOOC spécial 2003, que avec Eric Bénard, eux le MOOC spécial Jordan, pardon, que le tournoi pré-olympique, quand ils étaient arrivés là-bas, il n'y avait pas beaucoup de journalistes, à part des journalistes étrangers, journalistes américains, ils s'en tapaient, ils disaient, ouais, les finales viennent de finir, on a 15 jours, après on part en Espagne. Mais du coup, Georges Eddy ne parlait que de Magic, Jordan et Larry Bird. Et moi, comme toi, je voyais ce vieillard allongé par terre qui jouait 3 minutes, et je me disais, mais c'est pas possible, c'est quoi ce vieillard? C'est lui ce génie. Et du coup, bah, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser. Alors au début, tu pouvais lire que des choses, mais quand YouTube a commencé à arriver, enfin, j'ai bouffé des centaines de vidéos et de matchs de Larry Bird, parce que je voulais voir ce que c'était. Une fois que tu as vu. Et puis alors, c'était, malgré son physique, c'était pas le moins dur. C'est-à-dire quand il y avait de la filoche. Il y a des bagarres avec Lambeer, avec Dr. J, et alors rien à foutre contre des gars plus athlétiques. Il allait mettre des patates. Bon, ça sifflait moins à l'époque, d'accord. Et on expulsait moins les joueurs s'il y avait une bagarre commune. Mais la vache, moi, c'était la dureté du gars, parce qu'il se faisait sabrer aussi. Et réponse à tout. Voilà. Réponse à tout. Alors toi, je sais que tu as mis l'anecdote sur son trash talking que tu adores plus que tout, mais de la même manière qu'il avait réponse à tout avec son grand Wawa sur un terrain, il avait réponse à tout.
Mais c'est exactement ça. Et tu sais, c'est cette donnée qui est inquantifiable, mais qui joue dans l'aura et la place qu'on donne aux grands joueurs, en fait, c'est que les défenseurs et les adversaires étaient terrifiés, certains d'entre eux, à l'idée de jouer Larry Bird. Et il y avait une mystique qui est vraiment de la même nature que celle qui a entouré Jordan par la suite, en fait. D'ailleurs, tu le lis, tu vois, dans un bouquin que j'adore, l'un de mes bouquins préférés sur le basket qui s'appelle 48 Minutes, écrit par Bob Ryan, le légendaire. Ouais, voilà, j'ai eu la chance, dans le MOOC, là, j'ai eu la chance de faire une interview avec Bob Ryan, la légendaire journaliste du Boston Herald. Et dedans, il y a une partie là-dessus où les mecs par exemple, anecdote plutôt marrante, c'est quand tu allais jouer à Boston, la salle d'entraînement n'était pas au Garden, elle était à un autre endroit, et en fait, quoi qu'il arrive, t'avais toujours l'équipe visiteuse avait toujours le créneau d'entraînement avant celui des Celtics, donc je sais pas combien c'était, tu vois, genre imaginons c'était de 9h à 10h30, quoi qu'il arrive à 10h30 et une seconde, Larry Bird mettait un coup de latte dans la porte, rentrait dans la salle et commençait à shooter. Le coach pouvait être en train de finir de donner ses dernières instructions ou quoi. Voilà, exactement. 48 minutes, enfin, livre incroyable. Et donc, il raconte que déjà, c'était le trash talk qui commence avant le match, en fait. Que t'es fini ton entraînement ou pas, Larry Bird, il arrive, il dit non, mais là, c'est mon entraînement, il commence à shooter. Et il raconte notamment une anecdote où certains joueurs, certains adversaires le regardaient et commençaient à psychoter en mode, putain, mais il a mis 21 tirs de suite à son échauffement, à son entraînement d'avant-match. Et donc, il y avait ce côté guerre psychologique où il y a une partie qui était déjà gagnée avant le match parce que son aura et son talent faisaient qu'il était extrêmement craint par tout le monde. Et on avait parlé une fois, Pierre, de ce fameux match contre affrontement de malade entre lui et Dominique Wilkins où même les joueurs du banc des Hawks tombent à la renverse devant les paniers que Bird met sur la fin là, quand il en claque plus de 50, je crois. Ça, ça dépasse le talent, en fait. C'est une espèce de donnée inquantifiable qui fait que tes coéquipiers comme tes adversaires te pensent capable de tout, en fait.
Oui. Et puis une détermination farouche à montrer qu'il est le meilleur dans une ligue de plus en plus athlétique et qui joue de plus en plus dans les airs à l'époque. On va pas revenir sur la fameuse quote de Rodman et d'Isaiah Thomas qu'il aurait mieux fait de garder pour lui. Mais encore une fois, il y avait en plus cette défiance de toute une partie de la ligue contre Larry Bird, comme aujourd'hui pour Jokic, en disant ça fait 3 fois qu'il est MVP, il mérite pas 3 fois, machin. Comme à un moment donné, il y avait peut-être pour Steve Nash aussi. Bon, il devait faire dans une ligue aussi athlétique. Mais c'est normal aussi. On a déjà en une saison plus d'highlights d'Anthony Edwards qu'on n'aura jamais de Nikola Jokic, qui a dû faire 2 dunks dans la saison, alors que l'autre, il fait des dunks pour l'histoire pratiquement tous les matchs. Mais c'est cette science du jeu, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les observateurs sont si admiratifs, notamment les anciens comme Charles Barkley, qui ont joué et qui ont pris Larry Bird de plein fouet, sont si admiratifs de Jokic et qu'ils y retrouvent justement Bird. Tu parlais de la ville de Boston tout à l'heure, elle est partie intégrante, encore plus, je trouve, que la ville de Los Angeles, par exemple, des Celtics. On a parlé avec Guillaume Laroche la semaine dernière de New York. On disait sur les 5 grands quartiers de New York, chaque quartier a ses stars et chaque quartier a sa manière de jouer. Et à New York, tout le monde est un meneur de jeu, tout le monde manie le ballon, tu donnes le ballon, tu le revois jamais. Boston, et d'ailleurs les invités, Bob Ryan en premier dans la table ronde que tu fais dans Smook, dit quelque chose de super intéressant en disant que à Boston, c'est les Celtics qui influencent le jeu de la rue. C'est-à-dire, suivant l'époque, par exemple, en ce moment, j'imagine, ça doit shooter à 3 points dans tous les sens, mais il disait bien que si tu joues et que tu fais, t'es un trou noir et qu'on te donne le ballon, tu ne le rends pas, tu peux te faire taper ou dégager immédiatement de l'équipe. Donc ça, c'est assez particulier dans une ville, que ce soit quand même la franchise qui dicte la manière de jouer. Alors, pas dans toutes les villes, j'imagine que dans énormément de villes, à San Antonio, ça doit être pareil, que c'était les Spurs qui influençaient la même. On voulait jouer comme les Spurs. Mais quand même, dans une ville historique comme celle-là, avec tant de titres et tant d'époques, que le collectif est finalement c'est un petit peu comme la grande maison Madrid pour le Real Madrid, pratiquement. L'institution est plus grande que les joueurs.
Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant dans ce que soulignait, je sais plus, c'est effectivement Bob Ryan ou Dart Adams, un des autres intervenants qu'on avait eu, c'est que là aussi, il y a tout le poids de l'histoire, parce qu'en fait, en tirant comment dire, la ficelle par rapport à ce que tu venais de dire, c'est qu'en fait, tu remontais jusqu'à Red Auerbach, en fait, et que ce jeu collectif, il venait de l'époque de Red Auerbach, donc de la domination écrasante des Celtics dans les années 60. Et c'est vrai que de Red Auerbach, aujourd'hui, on garde un souvenir, ce bâtisseur de franchise au sens propre, l'un aussi de quelqu'un qui a brisé la fameuse color line aux États-Unis en étant le premier à drafter des joueurs de couleur à une époque où ça se faisait pas du tout en NBA. Et parfois on en oublie un petit peu son côté novateur dans le jeu avec ce principe de défendre fort pour jouer vite, nourrir ton attaque, enfin que ce soit ta défense qui nourrisse ton attaque et de jouer à 1000 à l'heure avec un jeu très altruiste où l'idée c'était tout de suite de faire avancer le ballon le plus vite possible. En fait, on remonte jusqu'aux années 60 et tu dis on est en 2022, enfin 2024, pardon, tu vois, j'ai un train de retard. Il y a un de nos intervenants qui nous dit ça et tu dis faut remonter aux années 60 en fait pour trouver l'origine de tout ça. Et c'est vrai que c'est marquant en fait de te dire que l'identité basketballistique de la ville vient du club et c'est pas l'inverse. C'est ce que tu soulignais par rapport à New York.
Bah, tu vois, John Thompson, le fameux coach mythique de Georgetown, lui donc avait amené ce qu'il avait appris aux Celtics avec Red Auerbach à Georgetown, qui est devenu, bon, bah, après, ce qu'on a appelé, alors, c'était pas très joli, la Black America's Team, tu vois, la classe. Mais c'était, malgré tout, il faut garder quelque chose en tête, c'est que les Celtics gagnent énormément dans les années 60. Mais la ville se passionne pour les Celtics dans les années 80, milieu des années 80, avec Larry Bird. On a pourtant en tête des images des années 60 très forte avec ses commentaires « Have you checked stole the ball? Have you checked stole the ball ?» Tu vois, et à chaque fois, les terrains envahis, etc. Mais c'était une niche, le basket, malgré tout. Il y avait des sports. Il faut savoir que Boston est une grande, grande ville de sport, hein, une grande ville d'université aussi, avec des universités très importantes. La fameuse Ivy League, avec Harvard qui est pas loin, le Massachusetts, c'est une terre, entre guillemets, d'élite intellectuelle à ce niveau-là. Alors, on va en reparler, parce que d'élite blanche, bien sûr. Mais le basket devient un sport principal dans les années 80. Dans les années 60, il y a les Red Sox qui bouffent tout et il y a le foot US. Les Patriots qui, eux, ont comblé, les New England Patriots ont comblé complètement le fossé des années 2010, là, à part la période qu'il y avait eu, enfin, les 20 ans de Tom Brady, ont comblé un manque de résultats assez criant. Et maintenant, Tom Brady étant parti, les Patriots étant revenus ce qu'ils sont, les Red Sox étant toujours aussi maudits, quoi qu'ils fassent, à ce niveau-là, c'est quand même une franchise assez maudite, même si elle a gagné quand même. Les Celtics sont redevenus, le vert est redevenu l'image de la ville. Mais c'est assez surprenant, en effet, que les 11 titres du début n'ont pas permis au basket de devenir le sport principal de cette ville qui était, encore une fois, phagocytée par d'autres sports, parce que c'est une vraie, 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 vraie ville de sport.
Ouais, même le hockey avec les Bruins à l'époque, qui était très bon. Oui, en fait, c'est vraiment une ville de paradoxe parce que, tu l'as dit, c'est une ville qui a été constituée avant même que les États-Unis soient les États-Unis. C'est un endroit riche en histoire avec la Boston Tea Party au moment de la séparation entre ce qui va devenir les États-Unis et l'Angleterre. Et cette espèce d'image de racisme, en fait, qui a longtemps collé à la peau de cette ville, de ségrégation entre les Blancs et les Noirs. Et en même temps, comme on en parlait un petit, on commence à en parler, finalement, là, avec les Celtics, notamment sous l'impulsion de Red Auerbach, une équipe qui a été la première à faire tomber des barrières. Les premiers joueurs noirs draftés, Chuck Cooper, séparent Red Auerbach et les Celtics. Le premier entraîneur noir d'une franchise, tout sport confondu aux États-Unis, c'est Bill Russell, lorsque Red Auerbach lui donne la responsabilité de devenir entraîneur-joueur à la fin de son passage à Boston. Donc il y a vraiment tout ça, c'est une ville qui est très riche historiquement. Et ce qui est intéressant, notamment là pour le coup, c'est Dart Adams, l'un de nos intervenants de la table ronde, donc qui est journaliste, historien de la ville de Boston, passionné de sport. Là, il est à fond sur les Celtics cette saison, mais aussi de hip-hop notamment, qui racontait que ça le dérange finalement qu'on ait de Boston que cette image de ville blanche, au bout du compte, et de manière prédominante. Il dit non, il y a une riche culture noire américaine aussi à Boston. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. Il y a eu des grands combats qui ont été livrés dans notre ville. Martin Luther King en est l'exemple. Donc voilà, il y a cette dichotomie toujours, j'ai l'impression, entre l'image que peut rendre la ville, le côté très raciste de certaines histoires qui s'y sont produites, et puis finalement d'autres histoires qu'on connaît peut-être un peu moins ou qui n'arrive pas à reprendre l'ascendant sur le fait que c'est une ville qui a été parfois aux avant-postes, finalement, de certaines avancées importantes.
Oui, oui, tout à fait. Alors après, cette grande ville, donc majoritairement blanche quand même, et puis, si vous regardez le League Pass, aujourd'hui encore, quand vous regardez un match de Boston, si vous regardez sur le League Pass, au temps mort, vous avez les images des gradins et tout, c'est quand même majoritairement blanc. Alors, il y a toujours une histoire de lutte des classes et que il y a eu une étude qui a été faite en 2019 par la Federal Reserve Bank et par l'université de Duke qui s'appelait La couleur des richesses à Boston et qui disait que le patrimoine médian des ménages blancs était de 247 000 dollars et qu'au niveau caribéen et au niveau noir, les caribéens 12 000 et que les noirs américains, le patrimoine médian était à zéro. Donc, du coup, on comprend peut-être mieux avec le prix des places, en plus pour aller en NBA, qu'il y ait ça qui est totalement anormal, surtout dans une ville comme celle-là. Marcus Smart avait raconté une anecdote complètement folle, je ne sais pas si tu t'en rappelles, où il s'était arrêté une fois à un croisement parce qu'il y avait un enfant qui était sur le bord de la route, descendre de la voiture pour dire à sa mère de remonter. Sa mère l'avait traité du N-word sans aucun problème, avec un maillot d'Asia Thomas sur le dos, quoi. Donc, il y a cette dichotomie, en effet, qui est complètement... Il y a une ambivalence qui est complètement folle. Et c'est, comme tu l'as dit, la seule franchise qui a eu plus de 5 entraîneurs noirs américains, je crois, dans l'histoire, avec le plus d'entraîneurs noirs américains. Et malgré ça, on ressent encore, et c'est une des premières questions qu'on pose, et c'est quand même un thème central du MOOC qui est là, c'est ce racisme systémique dont on a l'impression à Boston. Et quand on en a parlé il y a quelques semaines, tu sais, je t'avais présenté dans mes coups de cœur cette fameuse émission sur le roast de Tom Brady,
Oui.
suite à, voilà. Et c'est un sujet qui revient tout le temps sur le fait que, par exemple, Tom Brady, pendant des années, il n'avait pas un seul receveur nord-américain. Il est Randy Moss, et c'est le seul avec lequel il n'a pas gagné de titre. Donc, il s'est fait vanner là-dessus en disant qu'il ne faisait pas une seule passe à... Évidemment, c'est des vannes, mais c'est des vannes qui reviennent sur Boston. Et tu as plein de gens de là-bas qui souffrent de cette image que peut avoir la ville et qu'elle a encore aujourd'hui sur certains points. Et qui pourtant, on parle de Red Auerbach, personnage central de l'aventure de Boston, qui est fils d'immigrés juifs russes, hein, qui a grandi à Brooklyn, dont les deux superstars sont. Un Afro-Américain qui vient de la Louisiane ségrégée à mort, qui est Bill Russell, et un fils d'immigré français, qui est Bob Cousy, qui a fait lui-même sa thèse sur la persécution des minorités. Alors, Bob Cousy l'avait fait plus sur la persécution des Juifs, mais il aurait pu faire pareil. Bob Cousy, personnage incroyable, il était très croyant et il a failli quitter la religion en voyageant, parce qu'à l'époque, il voyageait pas en avion, il faisait l'avion, la navette.
Oui, c'est.
L'hôtel, ouais, c'était un bus et c'était pas. C'était même aujourd'hui, les bus Macron, si vous voulez, c'est de la business Emirates à côté des bus qu'ils avaient à l'époque. Même aujourd'hui, il n'y a pas des bus scolaires comme ça. Donc, et il disait qu'il avait failli quitter la religion tellement la ségrégation l'avait choqué à l'époque. Donc, tu vois, il y avait quand même. Tu l'as dit, la première équipe qui, en 1950, draft un joueur noir, et c'est la première équipe à aligner cinq majeurs noirs. Et le geste était très fort de Red Auerbach, puisque un de ses titulaires était blessé. Il avait John Havlicek sur le banc, et il a préféré un autre joueur à la place. Donc, c'était quelque chose, quand même, On ne peut pas dire pourtant, sur le terrain, rien n'était fait pour démontrer ça. L'équipe, le public était à fond derrière, mais c'est curieux, hein, il y a un doute.
Oui, bah c'est comme, j'en reviens aussi à l'histoire de Bill Russell, plus grand champion de tous les temps de l'histoire du basket, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps bien sûr, qui était adoré, adulé en tant que joueur à Boston pour ce qu'il faisait sur le terrain, mais dont la maison a été à plusieurs reprises, comment dire, dégradée avec des insultes raciales mises chez lui, la maison mise à sac, etc. Qui a longtemps eu une relation hyper complexe avec la ville en fait, où il disait non mais moi je suis un joueur de basket des Celtics, je suis pas de Boston. Moi, quoi, et ce
Oui, il disait. Là. La seule chose
enfin...
qu'il devait aux gens, c'était le fait que ça lui donnait envie d'être performant.
Exactement, et tu te dis, mais comment c'est possible que ce mec qui a permis à cette équipe de gagner autant de titres soit finalement la première cible, encore une fois, de telles exactions? Bon, après, on est dans l'Amérique des années 60, hein, c'était il n'y a pas très longtemps, et en même temps, c'était il y a longtemps, on connaît la violence de cette époque aux États-Unis, donc c'est pas si surprenant que ça, mais nous, avec notre sensibilité à nous et puis notre connaissance du sport et de la société d'aujourd'hui, ça reste quand même assez incompréhensible, incroyable. Et c'est vrai que longtemps, ça a continué à définir cette ville. Aujourd'hui encore, même récemment, quand Jalen Brown, l'été dernier, est devenu le joueur NBA qui a fait le contrat le plus lucratif de l'histoire du sport, avant qu'il soit battu d'ici quelques mois, j'imagine. Mais c'était aussi un de ces axes de, comment dire, de communication. Il a dit qu'il allait s'impliquer dans la ville pour faire bouger l'image de la ville, pour faire bouger la société. On sent qu'il y a encore du boulot à faire dans cette grande ville, qui est pourtant, encore une fois, paradoxe, quoi. Boston, côte est, ville intellectuelle, comme tu le notais, l'un des, comment dire, des centres névralgiques du Parti démocrate. Il y a tous ces paradoxes au sein de cette grande ville.
Ah oui, c'est exactement ça. Bill Russell, il l'avait dit. Enfin, c'est pas lui qui l'a dit, mais les observateurs l'ont dit. Il s'est senti pour la première fois réellement aimé et accepté du public de Boston en 1999, quand la salle lui rend un hommage ultra appuyé. aujourd'hui, c'est évidemment une légende, mais beaucoup de ces mêmes observateurs et de gens disent c'est peut-être le plus grand champion de l'histoire des Celtics, mais c'est un peu à l'image de ce qu'a choisi ton fils, c'est pas pourtant la période que retiennent les gens. Auerbach, quand on disait personnage qui se donnait, alors si vous avez vu cette super série qu'il y avait sur les Lakers, là où il y avait une deuxième saison que j'ai pas pu voir malheureusement, où justement on parle plus des Celtics dedans, j'ai pas vu la seconde saison, mais on voit apparaître Auerbach dedans, qui a ce côté arrogant, sale con et tout. Mais quel personnage visionnaire. J'ai lu une anecdote que je ne connaissais pas. C'est lui qui va convaincre Danny Ainge de se remettre au basket, parce qu'il était parti jouer au baseball en fait, en professionnel. Et je ne savais pas du tout que Danny Ainge avait les deux casquettes. Et c'est lui qui arrive à le convaincre de devenir basketteur, pour la suite devenir dirigeant, avoir la carrière qu'on sait. Mais un versant beaucoup plus humaniste que ce qu'on peut laisser croire.
Oui, et puis en termes de GM, voilà un mec qui a été capable de coup de génie. Hein, la draft de Danny Ainge, ça a tout à fait. Enfin, le fait qu'il l'ait convaincu de revenir au basket et qu'il ait réussi à l'extirper de la MLB, c'est une performance assez incroyable. La draft de Larry Bird, en prenant tout le monde de court, en le draftant un an avant tout le monde, parce qu'il avait bien fait attention et s'était dit, bah oui, comme Larry Bird était parti un an, il avait une césure dans son parcours universitaire quand il était reparti être ouvrier comment on appelle ça, les mecs qui s'occupent des plombes vertes là, dans les municipalités. Là, il avait arrêté, il était parti de la fac pour aller faire ça. Il pensait
des espaces verts.
Voilà, exactement. Entretien des espaces verts, ça lui avait permis de le drafter un an avant qu'il se présente de lui-même à la draft. Il y a tout un tas de coups comme ça, assez incroyables. Il y a un très beau portrait, alors je vous le remonte quand même, mais dans le MOOC spécial Boston, il y a tout un portrait sur Red Auerbach, personnage central qu'on était obligé de mettre sur la cover, qui est assez savoureux en fait, de ce point de vue-là, sur tous les aspects qui l'ont rendu aussi mythique. Pierre, moi j'ai une question à te poser quand même. Sorti, donc on va pas faire le détail de tous les joueurs incroyables qui sont passés par cette équipe, mais est-ce que toi, après l'époque Larry Bird, il y a d'autres joueurs malgré tout de Boston qui t'ont marqué, ou des joueurs pour qui tu as eu des coups de cœur?
Numéro 4 de Boston, évidemment, Isaiah Thomas, parce que c'était une jolie histoire. Parce qu'on en a parlé dans Pop Culture déjà, cette résilience de ce joueur, et surtout certainement un des joueurs les plus amoureux de jouer pour un maillot qu'on ait vu depuis très très longtemps. C'est-à-dire il pouvait laisser sa vie pour les Celtics. Il a appris à la dure ce que c'était que la NBA, le fameux c'est un business. Mais en même temps, est-ce que tu peux en vouloir à Danny Ainge à ce moment-là de dire on va prendre Kyrie Irving? Est-ce que tu pouvais te dire que ça allait être le fiasco, que c'est devenu bon? Donc c'est délicat. Mais l'aventure Isaiah Thomas est évidemment quelque chose d'assez unique, et je pense que dans le cœur des fans de pur et dur des Celtics, on en voit encore pas mal des maillots de bon, bien sûr le numéro 0 a fleuri un petit peu partout dans les travées. Mais c'est vrai que je pense que ça reste encore un souvenir assez émouvant et assez symptomatique justement de l'amour qu'est capable de donner cette ville à ce petit bonhomme qui arrive en plus. Il n'est pas drafté numéro 1, c'est pas Derrick Rose, tu vois, c'est pas l'enfant du pays. Il arrive, tout le monde se dit au départ, c'est un pari risqué, il va foutre la merde, il n'a rien prouvé, c'est des croqueurs. Donc voilà, je pense qu'Isaiah Thomas, moi, c'est un personnage qui m'avait beaucoup plu, et notamment dans cette fameuse campagne de playoff, pourtant qu'il jouait contre les Bulls. Et j'étais, tu connais mon amour pour Chicago, en plus avec cette période où il y avait Jimmy Butler, etc. Donc j'étais assez à fond pour eux. D'ailleurs, je crois qu'ils gagnent les deux premiers matchs. Et après, ce fameux retour où il enclenche un mode playoff qu'on ne connaissait pas, parce qu'il avait fait une saison régulière incroyable, mais on ne savait pas qu'il allait être aussi fort en playoff avec la mort de sa sœur. Bravo, bravo à lui, franchement. Et je pense qu'on a tous gardé du coup une tendresse pour ce joueur qu'on voit là encore à Phoenix. On a appris l'affaire qui lui est arrivée là, où il s'est fait braquer. Il a cette phrase terrible en disant « s'il ne m'avait pas reconnu, il nous aurait tous descendus ». Voilà. Et je pense que, tu vois, le fait qu'on ait reconnu Isaiah Thomas, aujourd'hui, la tendresse qu'ont les gens, envers ce qu'il a pu faire à Boston, bah peut-être que c'est curieux, c'est con à dire, mais ça lui a peut-être sauvé la vie sur cette semaine, tu vois.
Ouais, c'est vrai que bah, l'histoire était magnifique. Enfin, elle était aussi magnifique, elle était triste sur la manière dont ça s'est terminé pour Isaiah Thomas. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette courte parenthèse en fait durant laquelle il était All-Star, même si je me trompe pas, j'ai pas le
Oui,
j'ai pas le palmarès sous les yeux, mais
mérité.
oui. Exactement, c'était quand même très beau. Moi, il y a deux joueurs, alors complètement différents, qui m'ont plu. Moi, il y a eu Reggie Lewis, histoire tragique aussi, décédé en 93 d'un arrêt cardiaque. Lui qui devait, avec un autre joueur dont je te parlerai après, Pierre, assurer comment dire, prendre le flambeau de cette fantastique génération McHale, Bird, Parrish, pour amener les Celtics à rester au top durant les années 90. C'est un joueur qui m'avait beaucoup plu. Les quelques souvenirs de matchs que j'avais eu de lui m'avaient beaucoup marqué. Et voilà, malheureusement, décédé tragiquement en 93. Et l'autre joueur, alors plus récent, mais moi j'ai adoré Paul Pierce, et très très étonnamment peut-être, dans le Big Three, et le fameux Big Three qui a permis à cette équipe de Boston de se relancer complètement. Et même de aujourd'hui, quand on voit les fans des Celtics actuels, il y en a beaucoup qui sont ceux qui ont grandi avec cette équipe de Boston très forte, emmenée par ce Big Three. Moi, c'était, je pense, Paul Pierce, mon joueur préféré dans cette équipe. Grande gueule, avec une technique incroyable. Même sur les saisons précédentes, c'est vraiment un joueur dont j'ai apprécié la technique, qui était toujours là, dur au mal, etc. C'est un peu triste maintenant quand je le vois parler, parce que j'ai juste envie qu'il la ferme, tellement il est capable de débiter des âneries pas possibles devant un micro. Mais c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé aussi du côté des Celtics.
Moi, c'est vraiment un joueur dont je reconnais le génie, hein. Sans aucun problème, t'es pas MVP des finales sans être un joueur génial, mais c'est vrai que c'est incontournable, hein. Il est sur la couverture du MOOC. Quand on fait un MOOC sur une franchise comme celle des Celtics, je me doute que vous avez choisi un joueur par décennie, mais quand on voit le nombre de maillots retirés, ça doit pas être facile de choisir. Et bon, et le choix est évident, de choisir Paul Pierce. Malheureusement, sa fin de carrière là et sa reconversion le rend de c'est Paul, ça devient Paul Pitre, donc c'est ça devient vraiment compliqué de l'écouter, même de le regarder. Enfin, c'est délicat. Et c'est ces types qui sont obsédés par leur legacy, par la place qui reste. Enfin, ils racontent des dingueries en disant que presque il a un des meilleurs turnovers de l'histoire. Bon, je sais pas. Moi, c'est un joueur que j'aimais pas trop, parce que même dans les périodes où il voyait quand même qu'un type comme LeBron était le futur, il voyait que physiquement LeBron pouvait leur marcher dessus dans les fameuses joutes avec les Cavaliers, une fois qu'ils avaient réussi à plier gentiment les Bulls au début des années 2010. Et encore, c'était pas facile, notamment cette fameuse série en 7 matchs où ils combattent, et c'est peut-être grâce à ça qu'après ils arrivent à aller si haut. Mais voilà, j'ai jamais trop aimé le côté grande gueule. C'est alors, il faut être sûr de soi, mais je le trouvais un peu. Il y a plein de joueurs, tu vois, qui sont capables de dire aujourd'hui, on va dire concernant Anthony Edwards, putain, il est bon le gamin, tu vois, des plus anciens, de dire putain, il n'y a rien à dire, ok, on les tape. Les mecs, on va vous foutre en vacances, mais putain, le gosse. Voilà, moi j'aurais aimé entendre ça de grands joueurs comme Paul. Parce que c'est des grands joueurs, c'est des joueurs historiques dans l'histoire de la Ligue et d'une franchise comme ça. Mais justement, j'aimerais en venir à cette équipe. Tu parlais du Big Three et de ce fameux mantra Ubuntu qui fait qu'on est passé de cette manière philosophique de voir les choses qui avait été développée en Afrique, notamment par Nelson Mandela. Et d'ailleurs, ça m'avait fait voir dans le MOOC cette fameuse phrase, qui est une des phrases les plus incroyables, qui a été écrite par un rédacteur de Rivers, qui avait écrit « De Nelson Mandela, 3 points à Doc Rivers ». C'est la phrase la plus folle, les deux noms les plus fous qu'on puisse mettre l'un à côté de l'autre. Ce fait de dire « on est une personne à travers une autre personne », enfin voilà, c'est toute une philosophie qui finalement s'appliquait génialement à cette équipe. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Elle ne peut pas s'appliquer autrement que par la personne de Kevin Garnett en 2008.
Je suis à 2000% d'accord avec toi. Je pense que sans Kevin Garnett, jamais ce projet peut fonctionner comme ça. Même jamais cette équipe peut fonctionner comme ça. C'est parce que ça a parlé, ce concept a parlé à Kevin Garnett et qu'il a vite compris que si quelqu'un devait sacrifier une partie de son jeu, et j'aime pas trop le terme sacrifice, hein, on parle de gens qui jouent au fait de lancer un ballon dans un panier et qui sont très bien payés pour. C'est pas ça vraiment la nature de ce qu'on appelle un sacrifice, mais malgré tout, qui a accepté de renier finalement sur ce qu'il pouvait faire sur un terrain pour le bien de tous, c'est Kevin Garnett qui l'a vite compris et qui. J'ai l'impression que. C'est comme ça que le raconte Doc Rivers, mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est authentique. C'est comme si ça avait. Une lumière s'est allumée dans sa tête et derrière, il n'a jamais regardé en arrière. À partir de ce moment-là, à partir du premier jour du training camp des Celtics, manifestement, Kevin Garnett a accepté son rôle, a compris que sa responsabilité, c'était pas d'aller mettre 25 et 12 tous les soirs, mais c'était de faire en sorte que l'équipe, au sens large, soit la plus performante possible, d'être le chef de meute, le chef de la défense de cette équipe qui a été incroyable. Et il a jamais regardé en arrière. Je pense qu'il en a même jamais formulé le moindre regret. Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Et effectivement, cette philosophie qui est très belle, c'est dont tu parlais, c'est en gros, c'est pour que je puisse être moi-même pleinement, il faut que j'accepte que toi, tu sois toi-même pleinement. Et donc, c'est trouver cet équilibre entre laisser les autres se réaliser pour pouvoir soi-même se réaliser et aller plus loin. Alors après, il y a beaucoup de choses. Voilà, Doc Rivers et les Celtics, et même tous ces gens, en ont fait beaucoup autour de ce concept. Mais pour le coup, je ne suis pas sûr que. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné en tant que tel. Et tu sais, c'est un peu les belles histoires, comme il y en a parfois, qui ne sont pas. Éloigné de la réalité, et je pense qu'en tout cas pour cette année où ils sont champions, c'est vraiment ça qui a fonctionné à plein régime.
Oui, et en plus, d'habitude, tu sais, il y a ce storytelling en disant, bon, on va reprendre par exemple un truc que tout le monde connaît, quand LeBron avait dit à 3-1, on va parler Warriors, c'est bon les gars, il avait dit après, je sais qu'ils sont morts et tout, mais si tu regardes, tu sais, ces fameuses vidéos qui sont faites par les franchises ou par la NBA sur la saison du champion, au jour 1, ils mettent le bras en l'air, ils crient Ubuntu au jour 1 du training camp pratiquement. Donc c'est vraiment une philosophie qui les a tenus de A à Z du training camp jusqu'au jour où ils sont champions. Et ce qui est marrant, moi, je trouve, ce Big Three, en effet, qui est le premier Big Three tel qu'on l'entend aujourd'hui, hein, celui des Spurs, on en a parlé plus tard, celui d'autres Celtics de l'époque 85, celui de. On parlait pas de Big Three à l'époque des Lakers quand il y avait. Celui-là, on en parle parce qu'il est fabriqué. Il n'est pas. Jabbar est un trade, mais Magic et Worthy, eux, sont draftés. Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili sont draftés. Là, il est, à part Paul Pierce, il est monté de toutes parts. Cette équipe, elle est, voilà, comme après. Il y avait Dwayne Wade et autour, il y a Chris Bosh et LeBron et ainsi de suite par rapport à tout ça. Mais c'est un des premiers Big Three qui clique tout de suite. Tout de suite. Ils sont champions immédiatement avec une saison incroyable. Je crois qu'il y a même Shaq dans l'équipe à l'époque,
Plus tard.
au début de saison. Ah, c'est plus tard qu'il
Ouais,
arrive,
plus,
d'accord.
ouais.
Mais il y a une. Ça clique tout de suite. Et ce qui est drôle, c'est que. Cette équipe-là, telle qu'elle fonctionne, le côté Ubuntu, justement, tu te réalises par rapport à l'autre. La seule équipe que j'ai vue faire ça réellement, c'est la seule équipe qui a failli les taper cette année-là, c'est les Bulls. Les Bulls de cette époque-là, avec Derrick Rose, avec Joakim Noah, qui est l'ennemi juré de Kevin Garnett et qui est pourtant le joueur qui s'en rapproche le plus dans la philosophie sur cette année-là, en tout cas, à se sacrifier pour les autres, à dire. Moi, bon, les gars, je m'en fous. Je préfère une bonne passe, comme peut faire Nikola Jokic aujourd'hui. C'est pour ça qu'il plaît tant à tout le monde. Et c'était cette équipe de Chicago qui commençait à se monter, qu'avec des joueurs draftés aussi, à être complémentaires. Alors là, c'est une question que j'allais te poser. La place pour toi de ces Celtics 2008 qui font un beau run, hein, parce qu'ils demandent à tous les observateurs qui ont fait la table ronde leur pire souvenir. Beaucoup vont dire que c'est le match 7 des finales 2010. Hein, ils l'ont encore là, et parce qu'ils auraient pu le gagner 1000 fois. Mais elle finit mal, cette équipe. Sales histoires, soi-disant l'embrouille entre Rondo et Allen qui pouvaient plus se blairer. Ils se parlent plus. Même à la cérémonie des 75 ans, ils sont là, ils sont toujours pas pardonnés. C'est une des rares équipes aujourd'hui, dans une ligue qui est assez aseptisée, où tout le monde s'aime et tout, de voir encore des rancœurs comme ça dans une équipe gagnante, quoi. C'est curieux.
Après, Alors, tu as raison. Ce qui est marrant quand même, c'est que j'ai l'impression que Ray Allen est passé un peu en douce parce que finalement, c'est quand même un mec qui est parti pour rejoindre l'ennemi juré, quoi. Il est parti des Celtics
Totalement.
pour rejoindre le Heat.
Oui, mais
Et
parce qu'on lui a dit
alors.
qu'il sortirait du banc et qu'il voulait pas. Mais alors qu'il va au hit et que finalement il est un role player, quoi.
Exactement. Et encore une fois, je ne conteste pas du tout le droit qu'a Ray Allen de changer d'équipe.
T'as
Ça
raison.
me pose pas de problème. Mais c'est que dans le storytelling habituel, c'est. Enfin. Alors, je dis pas que Ray Allen avait la même importance que Kevin Durant au moment où il choisit les Warriors, mais finalement, quand tu vois comment Kevin Durant s'est fait démolir pour avoir choisi les Warriors après s'être fait
Complet.
sortir, s'être fait sortir par Golden State, c'est marrant de te dire que finalement Ray Allen, ça a fait peu de bruit à l'extérieur du vestiaire de Boston, en tout cas, parce qu'effectivement, clairement, Kevin Garnett s'en expliquait d'ailleurs depuis. Il disait que lui, à l'époque, il était en mode si t'es pas avec moi, t'es mon ennemi. Alors, une rhétorique qui a vraiment ses limites hein, sur un terrain comme en dehors. Mais c'est vrai que c'était moche finalement. Bon, après voilà, je pense que c'est quand même pour Kevin Garnett et Ray Allen, c'est des gens intelligents. Je pense que les choses finiront par s'apaiser. Mais
Longtemps, hein.
c'est un peu triste. Alors, c'est pas pour revenir sur Paul Pierce, mais c'est vrai que tu dis, t'as un Paul Pierce, le mec qui avait peut-être le plus beau surnom de l'histoire du basket, quoi. The Truth, le voir débiter des conneries aujourd'hui. Et puis. Pareil, ça a plutôt mal vieilli. À l'inverse d'un mec comme Rajon Rondo, que je trouve hyper, hyper intéressant à écouter aujourd'hui quand tu l'entends parler de disséquer du basket, c'est un vrai plaisir. C'est là aussi que tu vois que cette équipe, elle pouvait pas avoir vocation à rester ensemble longtemps. Et ce qui est beau finalement, c'est malgré tout, au crépuscule de leur carrière, ou du moins de leur prime, pas de leur carrière, mais de leur prime, que ces trois-là ont réussi à se trouver au bon moment avec bah, un petit peu une étincelle folle où tu te retrouves, tout fonctionne. Finale contre les Lakers, le rêve absolu de David Stern d'avoir Lakers-Boston en finale NBA, et puis que ça marche, qu'ils prennent ce titre. On en avait déjà parlé, Pierre, mais dans le Game 1 des finales 2008, là, quand Paul Pierce sort sans qu'on comprennent pourquoi ils sortent en fauteuil roulant. Je me dis, bah, c'est mort, ils ont fait tout ça pour ça, ils vont se faire pilonner maintenant par les Lakers. Finalement, c'est vraiment la belle histoire cette année-là. Donc voilà, c'est belle histoire, mais qui a mal vieilli, effectivement.
Bah oui, tout à fait. Et puis il n'y avait pas besoin de lui mettre du froid ou quoi que ce soit, un Imodium, et c'était fini. Il pouvait revenir sur le terrain avec une petite ordonnance, la pharmacie, et puis c'était passé. Non, c'est vrai. Mais la place de Ray Allen, du coup, et je trouve, alors tu me diras ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que dans l'imaginaire des gens, Celtics 2008, presque, Rondo commence à effacer, c'est-à-dire que tu as l'impression que même à la limite, la grande équipe, c'était Pierce, Garnett, Rondo, à la fin, tellement les Celtics eux-mêmes ont essayé de faire une espèce de cancel culture sur Ray Allen. Pour moi, Ray Allen est un joueur des Celtics. J'ai plus en tête le shoot de Ray Allen pour battre le record de Reggie Miller ce soir-là contre les Lakers en plus, où Kobe le check en le félicitant et où il se prend dans les bras avec Reggie Miller, que le shoot. Pour moi, ce shoot-là de Ray Allen est plus symbolique que celui contre les Spurs, même s'il est plus historique, on va dire. Mais pour moi, Ray Allen est champion avec les Celtics, il est pas et plus qu'avec Miami. C'est vrai que. Alors qu'on n'a jamais voulu à Rondo d'aller aux Lakers, par exemple. Bon, il n'a pas choisi, c'était un trade. On voyait qu'il était heureux comme tout. Qu'il est vert à vie, mais voilà, c'est vrai que cette gestion de cette fin de période fait que peut-être, ben, c'est encore largement en dessous, même si c'est plus récent dans la tête des gens, peut-être que voilà, il y a vraiment trois strates, quoi. Il y a les années 80, les années 60, même s'il y a 15 fois plus de titres, et la fin des années 2000. Peut-être que je me trompe, je ne suis pas suffisamment un grand, grand fan des Celtics, mais je sais que quelqu'un comme Bob Ryan va te citer Paul Pierce comme étant tout en haut, et cette période c'est vrai, bénie de 2008-2010, comme quelque chose de formidable. Hein.
Ouais, non, c'est clair, enfin, c'est vraiment une équipe qui a marqué malgré tout cette équipe du Big Three, notamment aujourd'hui. Je pense que on en parlait tout à l'heure, parmi les fans, il y en a beaucoup qui ont aussi grandi avec cette équipe-là. Et puis, ça va être intéressant de voir à l'avenir aussi quel souvenir va laisser cette équipe actuelle, celle de 2024, là, qui est qualifiée pour les finales NBA, voir quelle place ça va laisser dans l'histoire.
Ah oui, absolument, c'est quelque chose en effet qui, comme tu dis, sera à déterminer et de voir surtout les souvenirs que vont pouvoir laisser cette équipe de 2024 aussi, 2020-2024, ce duo Jalen Brown, ce duo Jason Tatum. Moi, on verra plus tard, comme on a vu pour, on voit encore pour 2008. Mais 2008, ce qui est plutôt marrant, c'est quand même, ils se font, ils sont en train de hurler après Miami, alors qu'ils se font eux-mêmes montent un big three 2 ans après. Ils sont d'une mauvaise foi, mais ça, c'est le public de Boston qui est d'une mauvaise foi absolue.
Alors, on a parlé des différentes grandes époques, finalement, de cette équipe de Boston, voilà l'importance culturelle de cette ville. Il y a aussi quand même, je pense, un élément, enfin un joueur et un événement tragique qu'on peut pas passer sous silence, qui a marqué au-delà de la ville, au-delà de la franchise, qui a marqué vraiment le j'ai l'impression la culture américaine et la société américaine dans son ensemble, c'est Len Bias, l'un des plus grands prospects sans doute du basket à n'avoir jamais pu fouler un parquet NBA officiellement. Pierre, dans le MOOC spécial Boston dont on parlait, c'est toi qui as écrit un très beau portrait notamment de Len Bias. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le personnage, le présenter, lui, son histoire, pour ceux qui peut-être connaîtraient pas l'histoire vraiment tragique de ce joueur au potentiel incroyable?
Freak of nature, hein, on aurait pu dire. Len Bias, un athlète, si vous avez le MOOC ou si vous tapez Len Bias en photo, vous voyez un jeune homme qui a 18 ans avec une carrure complètement folle qui était là. En effet, un prospect incroyable, pas au début, mais finalement à l'université de Maryland qui commence à performer de manière assez incroyable, et surtout qui va jouer donc contre Jordan à l'époque, hein, puisqu'il va y avoir un duel très médiatisé à l'époque. D'ailleurs, il avait même joué sur des playgrounds contre lui. Il y a une photo assez superbe de Jordan qui joue en extérieur avec Len Bias. Et Jordan, d'ailleurs, après le décès de Len Bias, c'est ses parents qui l'avaient dit, et c'est le premier qui avait envoyé des fleurs aux parents de Len Bias suite à cette tragédie. Cette tragédie, c'est laquelle? C'est Len Bias qui est donc drafté haut par Boston, puisque Boston, suite à une mauvaise opération de Seattle, se retrouve avec un tour de draft échangé très très haut. Et cette année-là arrive un Len Bias qui ne va pas être un complément, qui est censé être l'arme fatale pour continuer à laisser les Celtics sur le très 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 haut niveau. Len Bias, c'est un monstre physique parfait pour contrer ces petits connards des Pistons qui arrivent et qui commencent à mettre des coups à tout le monde. Un type qui a peur de rien, qui est dur au mal. Et c'est vrai que la question s'est toujours posée de un des plus grands what if, si avec Reggie Lewis, si tout ça s'était mis en place, parce qu'on avait quand même un Larry Bird et un Kevin McHale qui commençaient à être un petit peu vieillissants et qui allaient pouvoir souffler et permettre à des types comme Len Bias de prendre l'impact physique derrière et de donner une dimension physique différente aux Celtics. Les observateurs se sont dit, est-ce qu'on n'est pas reparti pour des années de domination? Et est-ce que les Bulls ou les Pistons à l'époque, bon, les Bulls c'est différent parce que c'est devenu une équipe de système, avec un système, le jeu en triangle qui faisait que, quelle que soit l'équipe en face, c'était difficilement contrable. Mais sur la dimension physique, les Celtics c'était reparti pour un long moment. Et va démarrer à ce moment-là, pratiquement, c'est comme si la foudre s'abattait sur la ville. On apprend le décès le lendemain de la draft. Il fait la fête à cet endroit-là. Il retourne sur le campus de l'université fêter ça avec ses potes et il fait une overdose de cocaïne. Ça a été un bouleversement sociétal, tu l'as dit, puisque il y a eu des. Ce que tu sais, c'est toutes ces grandes commissions d'enquête que font les Américains souvent, et c'est toute l'université du Maryland qui a été convoquée. Ça partait du proviseur aux profs, aux intendants, tout le monde a été là. La législation américaine a été terrible parce qu'elle a verrouillé des tests drogue en permanence. Elle a mis en place une législation encore plus restrictive. Alors évidemment, qui a rempli les prisons? C'est souvent les populations les plus pauvres. Mais il y avait une législation qui disait que pour 5 grammes de cocaïne ou de crack qu'on trouvait sur toi, c'était 5 ans de prison. Tu te rends compte que comme les prisons ont dû se remplir rapidement à cette époque où ça devenait presque des drogues institutionnelles qu'on commençait à trouver un peu partout. Mais surtout, ça a traumatisé la Ligue qui, encore aujourd'hui, il y a une jurisprudence Len Bias sur la sensibilisation des joueurs sur l'usage de drogue, sur l'entourage, parce qu'on a beaucoup dit que c'était son entourage qui était là. Voilà, c'est une histoire tragique qui donc, quand je dis la foudre s'est abattue sur la ville, parce qu'il y a eu une période sombre avec le décès de ensuite pour sur crise cardiaque de Reggie Lewis par la suite, terrible, et que finalement jusqu'à l'arrivée de la vraie belle éclosion de Paul Pierce, la seule vraie satisfaction qu'ils ont pu avoir, c'est un joueur que tu dois adorer plus que tous, qui s'appelle Dino Raja, qui était là et qui est arrivé trop tard, je pense, parce qu'il y a eu des démêlés judiciaires avec Split, parce qu'il ne voulait pas le laisser partir. Enfin, il a perdu presque 3 ans, il arrive à 26 ans NBA, ce qui est un peu tard, mais il a bien fourni avant de se faire trader lui aussi, alors que Rick Pitino, c'est la grande époque du Rick Pitino Show en 97, je crois, à l'orée de 97-98, où il est tradé aux Sixers. Mais voilà, ce départ de... Cette histoire de Len Bias, dont on parle encore et qui est un nom qui résonne à la fois aux Celtics, ou quand on entend parler de Len Bias, je pense que tous les supporters de Boston connaissent l'histoire de Len Bias et se disent, en parlent comme d'un joueur des Celtics alors qu'il n'a jamais porté le maillot des Celtics. Et c'est très curieux, c'est très émouvant aussi.
Ouais, c'était d'ailleurs assez touchant de voir l'émotion qui saisissait encore, que ce soit Bob Ryan ou Dart Adams, là, deux de nos consultants au moment d'évoquer ça. Alors Bob Ryan qui avait eu l'occasion de côtoyer Len Bias, de faire des interviews avec lui, mais même Dart Adams, qu'il a jamais rencontré physiquement, tu sentais toute l'émotion, limite ils pouvaient te redire où ils étaient précisément le jour où ils ont appris le décès de Len Bias. C'est vraiment quelque chose qui a résonné comme un tout coup de tonnerre à travers la ville et à travers tous les États-Unis. Et tu le racontes très bien dans ton papier, Pierre, les implications que ça a pu avoir pour la Ligue même, et puis pour le sport pro même, d'autres sports, pas que le basket, qui ont été impactés par ce décès. Et sur le côté nuage noir, tu as tout à fait raison, parce que derrière, effectivement, il y a le décès de Reggie Lewis, il y a les années Pitino qui sont plus que dramatiques, il y a Paul Pierce qui est drafté. Finalement, il tombe à la draft dans les mains de Boston, parce qu'il était annoncé bien plus haut au début, et finalement, c'est un survivant, Paul Pierce, on l'oublie, hein, mais il a bien failli rester. Il s'est fait poignarder dans une salle à faire en sortie d'une boîte de nuit. Il a failli rester littéralement. Finalement, c'était le premier revenu au training camp. L'année d'après, limite, c'est quand même après cette agression de Paul Pierce que les choses ont commencé à... Comment dire, sourire un petit peu plus à Boston. Il y a eu de l'espoir quand il y avait l'association avec Antoine Walker, puis après ça a été à nouveau dramatique. Et finalement, 2008, c'est aussi pour ça que l'histoire du Big Three à Boston a autant marqué, c'est que les fans de Boston ont eu l'impression que c'était ce qui les faisait sortir de 20 ans de marasme. Voilà, depuis le décès de Len Bias jusque ce titre de 2008, ce titre inespéré, c'est 20 ans quand même durant lesquels ils ont été mis à mal avec des drames comme toutes les franchises. Certaines franchises sont nulles parce qu'elles sont mal gérées, ça n'a pas forcément été le cas de Boston. Effectivement, il y avait cette espèce de nuage noir de malédiction qui a suivi la franchise pendant presque 20 piges.
Et encore une fois, on connaît l'impatience et l'envie de gagner qui est à Boston. Je vous conseille de voir le documentaire qui s'appelle Dynasty d'Apple TV sur les New England Patriots, où la ville de Boston joue un rôle central puisqu'elle devient pratiquement la ville la plus détestée des États-Unis, puisqu'on connaît la part du foot US, qui aime les dynasties, sauf qu'il y a eu des soupçons de tricherie de la part du coach Bill Belichick, qui aurait filmé à leur insu, sur le bord de la touche, des consignes défensives, etc., une année où ils vont gagner le Super Bowl. Et puis après, cette histoire des fameux ballons dégonflés de Tom Brady, le Deflategate. Exactement, des histoires abracadabrantes, mais qui ont fait que Boston, pendant longtemps, a été... presque catalogué comme une ville de tricheurs, où la ville était détestée, où la franchise était détestée partout où elle allait. Mais quand tu trimbales une franchise NFL, tu trimbales toute la ville avec toi. Hein. Là, on est hors des conventions. Donc, c'est vrai que c'est une ville qui a beaucoup gagné et qui attend de gagner encore et qui est très impatiente. Et je pense que la pression, elle est énorme sur les Celtics de cette année, non pas au regard du monde entier, mais en tout cas dans leur ville, je pense qu'ils doivent sentir une pression que s'ils ne gagnent pas là. Et ça peut être la grande chance de ceux qui vont jouer. Alors aujourd'hui, on ne sait pas, quand on vous dit, on enregistre dans la semaine si c'est Dallas ou si ce sera Minnesota. Peut-être que quand on vous parle, Dallas sera peut-être passé. Mais c'est la grande chance de ces gens-là. Ils arrivent en ultra outsider et toute une ville est derrière et il ne laissera rien passer. Quoi. Ils seront intransigeants et ça pourrait être vu comme un échec retentissant. Et je pense que la pression, elle est fortement sur cette franchise, sur ce Jason Tatum qui, on s'en rend compte, alors il y en a plein qui disent qu'il a le charisme d'une tondeuse à cheveux, mais voilà quoi. Ouais, l'héritier au trône. Mais je suis d'accord, il n'y a pas débat de dire qu'il mérite d'être sur la couverture, hein, c'est pareil. Mais waouh, il est. Voilà, tu sais, il y a des joueurs comme Asia Thomas, comme Paul Pierce. T'aimes pas, ils sont bandants, tu vois, c'est le mot. Voilà. Et ce que n'est pas Jason Tatum, malheureusement. Ça reste mon avis. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça, en effet, et qui disent à regret. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à non pas à l'aimer ou à le détester, mais j'arrive pas à me passionner pour Jason Tatum ou alors à le voir en top 5. Et c'est vrai que, alors qu'il est le meilleur joueur natif américain, en tout cas, je pense, à l'heure actuelle, même très certainement. Et pourtant, les gens n'arrivent pas à se passionner pour lui. Ouais.
Ouais, bah, je pense qu'on a un peu bouclé la boucle. On est parti de cette équipe de 2024 pour revenir à cette équipe 2024. Voilà, on pourrait et on fera certainement d'autres podcasts sur des périodes plus précises ou sur des joueurs marquants. Là, vraiment, il faudrait, je sais pas, les bras de Mutombo pour qu'on puisse vous les lister tous en termes de longueur de liste.
Il faut pas les miens.
Ouais, c'est ça. on pourrait y passer des heures. Je voulais peut-être on peut basculer sur l'aspect un peu bien culturel sûr de cette ville. Moi, je voulais parler d'un film. Alors, je cherchais un film, tu vois, qui avait un rapport avec Boston. J'ai pensé un moment aux Infiltrés. Et finalement, j'ai choisi de sortir celui-ci, qui est un de mes préférés, The Town, avec et de Ben Affleck, une espèce de polar noir qui se passe du côté des Southies, si je ne me trompe pas, ces quartiers populaires prolo de Boston, avec sous fond de braquage de banque, avec également un John Hamm excellent dans le rôle de policier. Voilà, c'est un film de gangster, l'un des ceux que j'ai préféré, j'allais dire récemment, mais tu sais, ça doit avoir déjà 15 ans maintenant, c'est là que tu vois que tu vieillis. Mais j'ai adoré ce film, si vous ne l'avez pas vu. Ben Affleck, avec lequel j'ai parfois un peu de mal en fonction des films, il est excellent dans celui-ci à la réalisation comme en tant qu'acteur. Donc voilà mon petit conseil cinéma en ce qui concerne Boston.
Will Hunting, aussi, évidemment.
Bien sûr.
Un film
sûr
sur Boston aussi, et toujours avec Ben Affleck, où on voit bien le South Boston et ce côté ville. Ville ouvrière, en effet, ville de tradition où ce gamin qui est joué par Matt Damon destiné à certaines choses, et tous ses potes autour qui disent « mais la chance que t'as, nous on va tous faire ça, on est tous foutus, on n'a pas le choix » et tout, de l'engager. Et cette fameuse confrontation avec ces jeunes d'université prestigieuse, en effet, avec ce nivellement de classe qui fait toute la violence de la ville. Will Hunting reste un beau film aussi, toujours avec Ben Affleck. Bon, de toute façon, c'est les plus grands amoureux de leur ville. Et il était là, Ben Affleck, à ce truc de Tom Brady également, pour les tomber dessus. Je pense qu'il n'y a pas plus amoureux. Alors, c'est vrai que le Celebrity Road au Celtics est bien moins garni qu'à New York, à Miami, et bien moins people, quoi. Mais encore une fois, c'est très particulier.
Ouais, et je crois que j'ai dit les bêtises, j'ai dit Southies, mais je crois que c'est de Charlestown plus tôt le quartier. Alors, je ne sais pas si c'est dans le sud de Boston.
Southies, je crois que c'est dans Will Hunting, il me semble.
Effectivement, c'est aussi un quartier prolétaire, mais là, je crois que plus spécifiquement, c'est Charlestown, le quartier des braqueurs. Et puis, c'est aussi une ville qui a un riche héritage musical, et notamment dans le rap. Dart Adams, encore une fois, l'un de nos intervenants en parle bien mieux que moi, forcément, mais je voulais souligner pour moi l'un des groupes les plus importants, en tout cas, qui m'ont le plus marqué en ce qui concerne le rap, Gangstar. J'aurais pu sortir n'importe quel album. J'ai choisi celui-ci, Hard to Earn, qui est probablement mon album préféré de Gangstar, même si il y a a jamais rien acheté. On ne peut pas se tromper, en fait. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, ils sont tous bons. Dont le rappeur Gourou, regretté Kiss, de son vrai nom Kiss Elam, regretté Gourou, qui vient de Boston. Et c'est quelque chose que je ne savais pas au tout début, en fait, que j'ai découvert au fur et à mesure, tellement il s'est fondu dans le paysage new-yorkais et tellement avec DJ Premier, ils ont contribué en fait à redéfinir un petit peu le grain et le son, l'esthétique du rap de New York. Voilà, Gourou, Gangstar, pour moi, au panthéon du rap et du hip-hop, cet album Art World, qui est vraiment l'un de mes préférés all time, et Gourou que j'ai eu là, c'est parmi les gens, j'ai eu la chance d'interviewer plein de gens. Je me estime à chaque fois super heureux, mais c'est vrai qu'il y a quelques fois, Pierre, où j'avais du mal à croire que j'étais en train de parler à quelqu'un, tellement je les avais écoutés dans ma vie. Les deux occasions que j'ai eues d'interviewer Gourou, ça en fait partie, quoi. Des moments où j'ai l'impression d'être passé de l'autre côté de l'écran, de l'autre côté du rideau magique. Et tu sais, la réflexion que je me suis fait à son décès, c'est que lui, comme quelques autres, c'est finalement les gens, ils font partie des gens dont j'aurais le plus entendu la voix de toute ma vie, tu vois, y compris, alors bien sûr, il y a tes très proches sont bien forcément devant, mais au bout du compte, j'ai tellement écouté sa musique que c'est une des voix, en plus une voix hyper marquante, Mostly the Voice, pour ceux qui connaissent un peu la discographie, voilà, un des personnages qui m'a le plus marqué.
Il y a aussi Antoine Pimel, donc je veux être la personne dont j'entends plus la voix.
Ça, c'est dans tes cauchemars.
Dans ma vie en ce moment, avec Rick Shai et toi-même. Ouais, Gourou, bah déjà, quand tu t'appelles Gourou, qui veut dire Gifter Unlimited Rhymes Universal, le donneur, le distributeur sans limite de rhymes universels, bon, déjà, t'es dans des sphères qui n'ont aucun sens. Les séries Jazzmatazz sont merveilleuses. C'est vrai que son duo avec Premier est incroyable. Bon courage à Common. Tu nous as parlé il y a peu de temps de ce futur projet entre Premier et Common. Bon courage à lui pour c'est ça, hein,
c'est Pitrock, c'est Nas qui doit faire.
Ah,
avec
c'est
Premier.
Avec Pitrock, ouais. C'est Nas, c'était avec Premier. Alors ouais. Pareil, bon, c'est quand même des grands, 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 mais bon courage à Nas aussi pour devenir le deuxième d'un one two punch avec Premier. C'est des rencontres, on parlait du clic entre Garnett et Paul Pierce, mettons, voilà, ça c'est Premier Gourou, c'est ça marche tout de suite. Enfin, c'est première note, première phrase, tu dis bon, c'est bon. Au revoir. C'est un peu comme Black Moon dont tu présentais le disque l'autre jour. C'est des évidences. Voilà, c'est comme dans des couples. Bah, là, c'est pareil. C'est une évidence que ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. Donc, ouais, Gourou, je pense le MC numéro un de cette ville de Boston. Alors, je vais être très honnête, je suis pas suffisamment rentré dans certaines lyrics pour voir s'il parle de la ville de Boston dedans, comme Nas fait de New York un personnage central de sa discographie. Je ne saurais pas te dire. J'ai pas été.
Pas tant que ça, finalement. C'est vrai qu'il parle plutôt de Brooklyn, là où il a bâti sa carrière avec DJ Premier. D'ailleurs, c'est marrant de voir que DJ Premier, qui vient du Texas, et Gourou, qui vient de Boston, finalement, ces deux étrangers à la ville de New York, en sont venus à définir en grande partie l'esthétique musicale. Mais il y a un morceau que je trouve hyper touchant, qui est notamment, qui est d'ailleurs sur cet album, qui s'appelle The Planet, dans lequel Gourou raconte son déménagement de Boston vers New York. Il y a une scène. Alors c'est marrant, tu vois, je te parle de scène alors que c'est de la musique, mais Gourou fait rarement du storytelling, mais à chaque fois qu'il l'a fait, j'ai trouvé qu'il avait été incroyable. Et il y a une scène dans ce morceau The Planet où il raconte sa dernière embrassade avec son père au moment de partir. Et il faut savoir que son père, donc le Kiss Elam Senior, si je me trompe pas, était un juge, et que son épouse et lui, tu sais, il y a une grande statue qui a été inaugurée à Boston il y a un ou deux ans, pas plus, qui est censé représenter une embrassade entre Martin Luther King et son épouse. Au pied de cette grande statue, il y a tout un tas de noms d'activistes importants pour les droits civiques originaires de Boston sont inscrits, sont gravés littéralement dans le marbre. Et parmi ceux-là, il y a le nom des parents de Gourou, qui ont été eux aussi en leur temps des activistes locaux pour la lutte pour les droits civiques.
Oh, c'est marrant, je ne connaissais pas cette histoire. Mais tu vois, on a parlé de New York la semaine dernière et là, juste, je fais une toute petite aparté rapidement. Je vous avais parlé du podcast 50 States avec Quotidien sur les 50 États. Il y en a eu, et celui sur New York est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a une interview très intéressante d'une chroniqueuse de Quotidien, justement, qui s'appelle Maya Mazorette, qui est la chroniqueuse sexe de Quotidien, qui a vécu à New York parce qu'elle est mariée avec un Américain et qui disait que c'est une ville où tu ne dois pas vivre et une ville où tu dois vivre. C'est une ville où tu ne peux pas vivre et une ville où tu peux vivre. C'est-à-dire que c'est le top de l'ascenseur social. Tu te dis, je ne pourrai jamais vivre là-dedans, c'est trop cher et tout, mais tu te rends compte que c'est la fin du game. En fait, tu as tué le game quand tu vis à New York. Tu ne pourras pas faire mieux. Tu ne pourras pas avoir plus de choses. Si tu y arrives, tu ne peux pas faire mieux. Et c'est très intéressant ce contraste, puisque regarde par exemple tous ces gourous premiers qui ne sont pas du tout de là-bas. Quand tu les écoutes, il n'y a pas de photos qui peuvent qu'être de là-bas, tu vois. Donc c'est marrant comme ils ont été eux aussi. Tout, t'as l'impression que New York absorbe également tes origines pour t'en créer de nouvelles, tu vois. Et tu parlais de famille. J'ai une petite anecdote assez marrante sur Red Auerbach. Son frère qui s'appelait Zhang, alors il n'y a aucune origine asiatique là-dedans, puisqu'ils viennent de. Son père était immigré russe. C'est lui qui a dessiné, moi, la seule image que j'ai quand tu me parles des Celtics, c'est ce putain de Farfadet. C'est lui qui a dessiné le premier. Il était dessinateur pour Washington Post, et c'est lui qui a dessiné le premier Farfadet. C'est pas le définitif, celui qu'on a en ce moment, qui est un des logos les plus reconnaissables de la Ligue, et que je déteste, parce que je le trouve horrible, et j'y vais avec rien. Tu vois, c'est le truc. Généralement, tu mets les couleurs de New York, il y a du orange et tout, ça va, tu peux matcher avec une paire de sneakers. Là, ce putain de vert, il va avec rien, donc c'est horrible. Et donc, ce Farfadet, la première version a été dessinée par le frère de Red Auerbach, qui était dessinateur au Washington Post. Une anecdote que j'ai trouvée dans le MOOC numéro 12 de Boston, mais ça m'avait fait vraiment, j'avais trouvé ça. Ouais.
Est-ce qu'on passe au coup de cœur de la semaine, Pierre?
Allez, vas-y.
Vas-y, alors allez, je me lance. Écoute, j'en ai deux cette semaine. Le premier, c'est que hier, j'ai eu la chance d'aller au concert de José James, un chanteur que tu apprécies aussi, je crois, Pierre Armand, un chanteur
Énormément.
jazz
Énormément.
incroyable. Une voix complètement folle, voilà, qui sort son nouvel album qui s'appelle 1978. J'avais jamais eu l'occasion de le voir sur scène. J'avais volontairement pas écouté l'album avant d'aller au concert pour découvrir ça sur scène, parce qu'il a joué tout l'album quasiment dans l'ordre en faisant face A, face B, face C, face D. Je me suis éclaté en fait. Voilà, c'était sur scène, il est aussi bon que sur disque. Avec un trio, il était en formation au trio avec basse, batterie et clavier incroyable, notamment un batteur. Le nom me revient pas, je l'ai pas en tête, mais un batteur incroyable. C'était ouais, grosse claque cette semaine. Maintenant, je vais pouvoir me poser avec l'album, le réécouter, voir s'il me laisse la même impression. Mais ça, c'était mon premier coup de cœur, Pierre.
José James, qui avait été parrain de Hang Time pendant une année, puisqu'il avait remporté un Hang Time Award du meilleur album pour Black Magic à l'époque.
Magnifique
C'est
album,
quand il avait. Non, là, il
album
avait sorti
incroyable.
ses albums sur le label Giles Peterson, le label Brownswood. C'était la première signature, une des premières signatures de Brownswood. Black Magic, super disque, et qu'il a réédité il n'y a pas longtemps sur un autre label avec une pochette horrible. Parce qu'au niveau style, à un moment, il s'est un peu perdu en essayant de faire un peu de la pop, un truc un petit peu plus à la. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, qui est très connu, Ben quelque chose. Mais bon. Bref, d'être un petit peu pop, mais alors que le jazz, c'est ce qui lui va le mieux, ou cette new soul, c'est ce qui lui va évidemment le mieux. Voix super, type assez sympa, foncièrement amoureux de New York aussi, bien sûr, mais un personnage très intéressant. Alors, quand on l'avait vu, un personnage assez. Bon, à l'époque, il était très mis en avant, alors il y avait un ego un peu. Bon, voilà. Tu sentais que quand je lui avais remis son prix sur scène, il en avait bien rien à tamponner. Mais voilà, c'était là une star vraiment. Mais il avait fait 1 heure de concert. Il était programmé pour 1 heure de concert. Il a fait 1h45.
Ok.
Donc il avait fait le nécessaire. Il s'était fait plaisir. Chaque morceau durait 8 minutes. Ça partait en jam et tout. Les mecs dans la salle, les techniciens, ils avaient envie. J'ai cru qu'ils allaient lui jeter des fléchettes empoisonnées. Mais vraiment super concert et incroyable artiste. Allez découvrir José James, ses premiers albums, The Dreamer et
Ouais,
Black Magic.
Bah, écoute, tu vois, on n'en avait jamais parlé, Pierre, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour moi ces deux albums que je préfère, les deux sur Brandwood, là, The Dreamer et
Écoutez
Black
ces
Magic,
disques.
vraiment, ouais,
Écoutez
incroyable.
ces disques, ça n'a pas vieilli, ces albums qui ont. Ça doit avoir 13 ans, 14 ans presque, Black Magic, mais c'est des disques qui sont. C'est soyeux, ça fout des frissons. Vraiment, un artiste à suivre, enfin à continuer à suivre ou à découvrir.
Ouais, allez, j'enchaîne avec mon deuxième coup de cœur. Genre, je vous avais déjà parlé de ça. C'est le numéro 6 de la revue Tag qui est édité par Fuzzy, un ancien, enfin non, toujours un artiste de graffiti qui a un podcast qui s'appelle le podcast de Fuzzy, qui est passionnant sur, bah, sur la culture graffiti. Et donc là, c'est le numéro 6 qui vient de sortir. C'est de l'auto-édition, toujours en indépendant, en édition limitée. Vous pouvez trouver tous les liens sur son site ou sur ses réseaux. Et donc, la thématique de celui-ci, en fait, c'est 6 villes, donc Santiago, Taipei, Miami, Mexico City, Paris et New York, vues par le prisme des photos de réalisation de différents artistes de graffiti. Voilà, donc toujours, il y a ce côté très brut de décoffrage, moi, que j'aime beaucoup. On sent que c'est de l'indépendant. Ça, une de ces taglines, c'est pour nous, par nous. Donc c'est vraiment, voilà, si vous êtes intéressé par la culture graffiti, je vous encourage à aller regarder un côté du côté de ce que peut proposer. De ce que peut proposer Fusil, que ce soit sur son podcast ou dans ses publications. C'est toujours de très grande qualité. Et puis, bah, nous, comme aussi on est des éditeurs indépendants, je ne vous cache pas que j'ai toujours un petit peu, voilà, une petite sensibilité particulière pour les passionnés qui font les choses par eux-mêmes. Je trouve que ça mérite souvent un coup de projo. Donc, voilà le numéro 6 de la revue Tag.
Très joli. Comme d'habitude. Moi, mon coup de cœur, bah, alors, il va faire écho à ce qu'on dit, puisque on parlait de la lutte des droits civiques. C'est l'intégrale du superbe Wake Up America qui raconte l'histoire de John Lewis, congressman et activiste qui avait fait de la lutte pour les droits civiques le combat de sa vie. C'est avec ces mots que ce livre a été fait. Ça couvre la période 1940-1965. Hein, c'est pas la plus glorieuse de l'histoire des États-Unis. C'est magnifiquement illustré en noir et blanc. Voilà, si vous voulez comprendre la société américaine d'aujourd'hui en revenant plus de 60 ans 60 ans en arrière. Voilà, c'est aux éditions Rue de Sèvres, c'est magnifique. Et Wake Up America qui avait reçu le National Book Award, une des distinctions littéraires les plus importantes aux États-Unis. Donc cette intégrale qui est là est absolument superbe et il faut la voir dans chaque bibliothèque. Ça coûte certes 30 euros, mais il y en a pour des heures et des heures de lecture. Et si vous voulez éduquer vos enfants, sans que ce soit forcément très ludique, mais en tout cas faire en sorte, comme le fils de Théo, après vous jouiez avec les Celtics de 86. Il faut faire des choses comme ça.
Il y a des trop. Vous pouvez prendre un abonnement aussi chez le psy pour dans 10 ans sans problème hein, pour les traumatismes causés par les Boston Celtics.
Alors, mon autre coup de cœur, c'est un autre traumatisme. Théo, tu me l'as envoyé tout à l'heure et moi, j'allais le poster sur Hoop Culture. On va le poster il faut que vous voyez cette vidéo. Ça se passe dans le Michigan et il y a un juge qui. Alors, je ne savais même pas qu'aujourd'hui, on pouvait faire des confrontations pour un jugement avec. Enfin, en fait, c'était plus. Le type avait été libéré sur caution. Apparemment, il avait dû faire une énorme connerie en voiture. Et du coup, on lui retire son permis. Son avocate est là. Donc, ils font un zoom avec le gars qui avait peut-être pas pu se présenter au tribunal. Et là, l'image apparaît. Et le gars est au volant, en train de conduire. Donc, de répondre au téléphone en plus. Et il est là, il regarde, il fait oui. Alors, ah oui, alors, je me gare dans une seconde. Voilà. Et il écoute le gars qui dit. Alors, attendez, il parle à son avocate qui est.
Consterné.
Il lui dit, on est d'accord. Là, il a donc retrait de permis. Il est donc au volant. Oui, monsieur le juge. Il est donc il est en train de conduire. Oui, monsieur le juge. Et le juge est complètement halluciné. Et t'as le gars en face, il est comme ça. Il regarde et il se dit, on dirait Paul Pierce quand on lui pose une vraie question sur le pick and roll. C'est que. Il comprend rien à ce qui se passe. Et en fait, pour la petite histoire, après, on lui a révoqué sa caution et il a été obligé d'aller se présenter aux flics direct. Il a dû prendre très très cher. On vous partage tout de suite la vidéo. C'est lunaire, mais c'est tellement drôle. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Théo me l'envoie. au moment où moi-même j'allais lui envoyer. Donc, comme quoi, encore une fois,
On vous met le lien dans la description. Vous verrez, franchement, ça vaut le coup.
Ah ouais, non,
Moi,
on va vous le mettre en story. C'était exceptionnel. Il n'y a que l'Amérique qui peut faire un truc comme ça.
C'est ça, j'adore à la fois l'attitude du juge, qui est vraiment, il y a un vrai moment d'incompréhension du juge. T'es limite, tu sens qu'il revérifie ses fiches pour se dire, mais c'est bien le mec à qui on a retiré le permis qui est en train de nous appeler depuis sa voiture. C'est pas possible quand même.
Oui, de répondre en conduisant. En plus, qu'il fait comme ça, il fait. Et en plus, le mec fait. Il regarde son DV. Oui, oui. Oui, oui, je vais me garer là. Je me gare tout de suite. Comme...
Magnifique. Magnifique anecdote. Ouais. Pierre, je ne sais plus si tu avais un coup de gueule ou si on passe sur le lit, je m'en rappelle
plus.
J'ai un petit coup de gueule
contre un truc très particulier, c'est le jeu de basketball. Voilà. je n'en peux plus de ce jeu. Je n'en peux plus. Je le déteste à un point truc. C'est qu'ils l'ont inventé. Allez, mais mangez tous vos morts. Naismith, tous ceux qui ont changé les règles, qui les 24 secondes. Mais allez tous bouffer ce que j'ai pris. Écoute bien, 31-0 à 1 contre 1 contre mon pote Romain, que j'embrasse, je salue. Super joueur, rien à dire, ça n'excuse rien. 31-0, c'est-à-dire que, tu sais, généralement, tu dis, tu prends un vélo, une roue de vélo ou un set de tennis quand tu prends 6. Moi, j'ai pris 31, c'est-à-dire j'ai pris un mois entier. J'ai pris le mois de mai à zéro. C'est-à-dire, tu vas faire du sport content en te disant je vais rentrer détendu et tout. Ta femme, elle te dit casse-toi, va jouer au basket, tu reviendras content. Je reviens, mec. Comme je te disais, comme un gamin qui t'a donné des frites de betterave, c'est-à-dire prêt à tuer ton père, ta mère, en disant vous paierez ça un jour. Je vais aller chez le psy à cause de ça. Je vais jouer avec Larry Bird de 86. Bon, enfoiré. Mais vraiment, ce jeu-là. Ce sport à la con là, je peux plus ce sport où moi je suis petit, je suis mort en permanence, j'en ai marre. Dès que je change sur un écran, je me retrouve sur un mec à qui je rends 60 kilos. Merde quoi, voilà, merde à ceux qui ont inventé ce sport. Et merde, c'est tout. Bon, maintenant on regardera les pleurs quand même ce soir.
Je rigole, mais je te comprends tellement, Pierre, parce que franchement, je pense que si vous nous écoutez,
30-0, ça n'existe pas.
Ce sentiment, vous le connaissez forcément, vous l'avez vécu. Tu sais que le basket, c'est vraiment le syndrome de Stockholm, quoi. Tu passes ton temps à dire, non, ça va, ce tortionnaire, quand même, plutôt sympa. Ah, c'est l'enfer.
C'est horrible. En 5-5, à la limite, t'as passé une soirée avec tes potes, t'as rigolé, mais en 1 contre 1. Tu t'es fait ruiner. Et en plus, le mec en face de toi, à la fin, qui dit, mais tu sais quoi, moi aussi, j'ai des soirs sans. Mais j'en ai rien à foutre, des soirs sans. Tu m'as mis un mois dans la gueule. T'as pas honte? Bon, bref. Romain, dur. Tu les as mérités. Bravo, en tout cas. Et si c'est à refaire, je le referai. Mais putain, parce que c'est frustrant.
Par contre, si j'étais Romain, à partir du 15-0, je ferais attention à mes chevilles et à mes genoux et voir s'il n'y a pas une clamolette qui traîne au bord du terrain.
Non, j'avais pas le temps de la sortir. Ça venait dans tous les sens. Ils me mettaient des séries de 12-13. Moi, j'étais hors rythme. Donc, dès que je prenais un shoot, bah raté. Donc, ils repartaient pour 12-13. J'avais pas le temps de sortir quoi que ce soit, de sortir une clé et tout. Si encore j'avais pu, le temps de me baisser était déjà passé.
Magnifique, bon.
Oh oui, je pouvais pas lui crever les pneus, c'est lui qui a me ramené en voiture derrière. Tu vois ce que je veux dire.
Attention Romain, la semaine prochaine Pierre il arrive en scooter, c'est pas la peine d'essayer de lui faire la même. Envoyez des messages de soutien à Pierre.
Exactement. C'est moi qui conduis la semaine prochaine Romain. Et tu resteras sur le banc comme ça, attendre le bus à 1h du matin parce que je serai parti avant toi.
Magnifique. Allez, on enchaîne avec les reliques de la semaine. Qu'est-ce que tu nous as sorti cette semaine?
Alors, c'est une relique que peut-être tu as toi déjà, Théo, mais on avait parlé de, tu sais, de Giancarlo Esposito la semaine dernière et de le fait d'avoir refait la pub dans Do the Right Thing. Donc, j'ai sorti ce livre que tu as peut-être.
Pas du tout, non.
Sur Do the Right Thing, aux éditions Amo, qui est un livre en anglais uniquement, avec énormément de photos. Alors, des photos, je te laisse voir, hein, c'est des. Tu peux passer des heures, photos de tournage, quelques années, voilà, des anecdotes de tournage sous forme d'interview. comment les personnages ont été choisis, toutes ces choses-là, les interviews de, voilà, de belles photos du film. Et puis après, c'est dans la deuxième partie du bouquin, tu as en fait tout le scénario. T'as tout le scénario en fait, avec les dialogues. Et donc, je t'ai sorti le fameux endroit où il y a Bugina. Yo! Yo! Et
Yo!
donc, t'as tout le truc avec marqué. C'est donc il l'appelle le Youpi, qui dit excuse me, I'm very sorry. Donc t'as le truc, voilà. Si tu te dis not only you did you knock me down the step on my new white Air Jordan that I just bought and that's all you can say is excuse me. Tu vois tout, et plus tu le lis, plus t'as la voix de Bugging Out. Donc voilà, c'est très marrant. Et donc t'as tout le scénar qui est là, tous les textes qui sont écrits manuellement par c'est le manuscrit de Spike Lee. Donc c'est super, voilà, c'est un bel objet. Do the right thing de Spike Lee, dans un chouette format en plus.
Ouais, super, super relique, effectivement. Moi, écoute, je suis parti sur de la musique. Un album dont on avait parlé ensemble, parce que tu m'avais gentiment invité sur Hangtime suite à la sortie du MOOC 12 spécial Boston. C'est le premier album de Edoji and the Bulldogs. Donc, Edoji, légende du rap de Boston.
De Boston, bien sûr.
Ouais, absolument, avec notamment deux morceaux incroyables, I Got to Have It et Be a Father to Your Child. Moi, c'est par là, en fait, que je me suis rendu compte. Enfin, c'est un des axes qui m'a permis de me rendre compte que le rap n'existait pas qu'à New York et à Los Angeles à l'époque. Ça a dû sortir en 91, ça, si je ne me trompe pas. Très bel album. Et en fait, je voulais profiter de mettre cet album en avant pour parler d'un autre album, en fait. Celui d'un de ses protégés qui s'appelait Scientific. Alors ça, c'est un album qui a très peu tourné pour une double raison. Tout d'abord parce que le label en question sur lequel est sorti cet album a fait faillite rapidement. Donc il a très vite plus été disponible. Et aussi parce que Scientific, malheureusement, est mort dans une histoire tragique très jeune. Donc c'est tu sais, une histoire de plus de ces talents. Alors, on en connaît plein dans le sport, il y en a aussi malheureusement plein dans la musique. Talents fauchés trop tôt, chance à pas de bol. Cet album avait été réédité en 2006. Il date, si je ne me trompe pas, de 94 à l'origine, 94 ou 95. Et c'est un très bel album. On trouve dessus Diamond D, Edoji. Il y a des productions de Buckwild. Il y a même des productions de The RZA et d'une équipe de producteurs de Boston qui s'appelle The Vinyl Reanimators. Voilà, donc c'est un album vraiment très chouette. Si vous aimez bien le boom bap des années 90, une espèce de petite pépite qui est passée entre les mailles. Voilà, très bel album de Scientific qui s'appelle tout simplement criminal.
Et tu vois comme quoi ta valeur est toujours, tes critiques sont toujours les meilleures. Je crois que dans les derniers classements qui avaient été faits des 10 plus grands MC de Boston, je crois qu'en 1 il y avait Guru, en 2 Edoji et en top 5 je crois il y a Scientific. Donc comme quoi ta sélection est toujours aussi acérée. Juste un dernier truc, ouais. Là derrière, sur le texte qui a marqué, quand même écoute bien comme quoi Spike Lee il a quand même... Il disait « Découvrez comment Spike Lee a fait le casting du film, a shooté certaines scènes clés, notamment les émeutes raciales, a dealé avec les critiques de prédictions de violence dans les cinémas et a même aidé à amener le président Barack Obama et sa First Lady ensemble, puisque le premier film qu'il a amené voir quand ils ont fait leur premier date, c'est d'aller voir ce film-là ensemble.
Bon choix critique de la part de Barack. Par contre, quand tu sors, c'est plus dur d'emballer dans la foulée. Hein. C'est quand même un film où tu sors, t'es un peu semi-déprimé, semi-à la rage. Mais voilà.
C'est ça.
Joli move de la part de Barack.
Ou en tout cas, j'espère qu'il n'a pas emmené bouffer une pizza derrière chez les Italiens, parce que ça paraissait un peu probable.
C'est clair, on va refermer là-dessus cette page de pop culture. On a fait long, mais avec une ville et un club comme Boston et les Celtics, on aurait pu faire encore 15 fois plus. Merci encore d'être avec nous. On vous souhaite de passer un super dimanche. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On devrait avoir une très belle surprise avec un invité de prestige. On vous en dit pas plus, mais on a déjà hâte d'y être. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.
Salut à tous. Salut.